Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h, 3h d'émission sur RMC à la radio, RMC Story Canal 23. Et on est avec aujourd'hui Rémi Barré. Salut Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
L'inamovible Thierry Moreau, salut Thierry.
Salut, ça va?
Bah écoutez, oui, très bien, très bien. Elle est là tous les mercredis et on est ravis d'avoir sur le plateau, c'est Fatima Benomar. Ça va Fatima?
Ça va très bien, merci.
Beaucoup de boulot aujourd'hui, en ce moment pour les militantes
c'est
féministes.
C'est la relève féministe.
Mais écoutez, on ne parle que de vous. Fatima, et ça va continuer.
Et c'est pas fini.
Mais bien sûr. Et on est avec également le journaliste RMC, Fred Hermel. Salut Fred.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, une enseignante menacée de mort par le frère d'une élève qui refusait d'enlever son voile. Une forte hausse des atteintes à la laïcité à l'école. La laïcité est-elle en danger aujourd'hui en France? On attend bien sûr vos réactions au 32-16. Midi et demi, on parlera de la pénurie de conducteurs qui entraîne des galères dans les transports en commun dans toute la France. Est-ce que c'est l'enfer aujourd'hui de prendre les transports en commun? À 13h, 3 Français sur 4 estiment que l'âge idéal de départ à la retraite est de 62 ans. Emmanuel Macron doit-il écouter les Français? On attend vos réactions également par écrit sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. Et puis, à 14h, on parlera de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui souhaiterait renforcer les cours d'éducation sexuelle à l'école. D'accord ou pas d'accord avec lui? Et puis, on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il y a quoi, Rémi?
On parlera notamment de la multiplication des fermetures, des guichets dans les gares SNCF. Et on parlera aussi de viande végétale. Si, si.
RMC Estelle Midi.
Et on va commencer tout de suite Estelle Midi avec l'affaire du jour. Une enseignante menacée de mort à Paris par le frère d'une élève à qui elle avait demandé d'enlever son voile. Un événement qui illustre la forte hausse des atteintes à la laïcité à l'école cette année, Rémi.
Oui, entre décembre 2021 et mars 2022, l'Éducation nationale a dénombré 627 signalements pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées. Alors je dis bien, ce sont des signalements qui sont remontés jusqu'au ministère, parce que de nombreux enseignants disent également, c'est la fameuse phrase « pas de vague », qu'il y a de nombreux incidents qui ne sont jamais signalés. En tout cas, ces chiffres ont été annoncés en juin dernier par le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Dans le total des atteintes à la laïcité, la part des incidents liés aux tenues religieuses a augmenté. Elle représente 22% du total des signalements. Et dans l'écrasante majorité des cas, c'est ce que dit aussi ce rapport, eh bien cela concerne l'islam, entre volonté de porter des tenues dites traditionnelles jusqu'au refus d'ôter le voile en classe. Dans une note du renseignement territorial révélée également en juin dernier, les policiers font notamment part d'une nette recrudescence liée aux tenues dans le Gard, à Bordeaux ou encore dans le Val d'Oise. Bon, il faut tout de même relativiser ces chiffres, hein. 627 incidents sont survenus entre décembre 2021 et mars 2022 sur plus de 12 millions d'élèves scolarisés, écoles, collèges et lycées. Reste que le phénomène n'est pas nouveau et qu'il inquiète, à tel point que le ministre de l'Éducation a annoncé que désormais, l'évaluation par ses services des atteintes à la laïcité ne serait plus tous les trimestres, mais désormais, ce serait des rapports mensuels pour bien suivre ce phénomène.
Alors, la laïcité est-elle en danger? Je vous pose la question, Thierry Moreau.
Bah oui, il faut s'inquiéter parce que la laïcité à l'école, il faut se battre pied à pied à chaque entorse à la laïcité. Il faut agir à chaque fois. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est une chose, mais oui. Il faut que, notamment, il y a plein de choses. Il faut que les enseignants soient soutenus de manière implacable par leur hiérarchie et de manière systématique. Il faut aussi beaucoup de pédagogie, expliquer aux jeunes que critiquer les religions, ça relève de la liberté d'expression et pas d'autre chose. Il faut des moyens aussi pour ceux qui sont sur le terrain, qu'ils aient les moyens pédagogiques, les formations pour faire face aux discours malsains, mensongers et militants auxquels ils font face et qu'ils subissent. La laïcité, faut le rappeler, c'est pas l'islamophobie, c'est pas être contre la religion quelle qu'elle soit, c'est pourtant ce que certains jeunes pensent, et c'est un cadre qui favorise l'épanouissement de la personnalité, de la citoyenneté, et c'est ce qui permet l'égalité aux femmes et plein de choses. Donc il faut se battre pied à pied, mais il faut que les moyens soient là. Signalement mensuel, c'est une chose, mais il faut aussi, et on l'a vu dans les dernières affaires.
Signalement mensuel, c'est-à-dire que ça va aussi
stigmatiser.
C'est pas stigmatiser, mais c'est donner.
Il va y avoir un effet loupe. Il va y avoir un effet loupe. Je suis d'accord avec vous.
Tout petits événements. Donc en fait, oui, voilà, c'est quoi une entorse à la laïcité?
Bah, par exemple, c'est le fait de refuser d'enlever son voile et d'avoir cet incident qui fait que le frère veut menacer de mort l'enseignante. Ça, c'est inacceptable. Et là, pour des cas comme ça, il faut intervenir tout de suite. Mais surtout,
d'encore plus en parler fait que vous allez avoir plein d'ados qui vont vouloir aussi provoquer et aller peut-être encore plus loin. Après, c'est un engrenage, c'est ça, je veux dire.
D'où la pédagogie, tout le temps nécessaire pour expliquer que la laïcité, ça n'est pas la négation des religions, c'est au contraire l'épanouissement des religions, mais pas dans le sanctuaire qu'est l'école. C'est toutes ces choses-là. Et il faut surtout, et je reviens sur ce point que j'ai dit au début, le soutien de la hiérarchie qui, hélas, manque trop souvent.
Fatima Benomar, est-ce qu'il faut plus de fermeté ou au contraire plus d'ouverture, finalement, pour qu'il y ait moins d'incidents ?
Alors, c'est pas question de fermeté ou d'ouverture, c'est question, comme tu l'as dit, de pédagogie. Déjà, pour moi, il y a deux sujets. Il y a la question des violences et des menaces qui est inacceptable et ça ne fait pas débat. Et puis, il y a la question de la laïcité. C'est-à-dire que pour moi, ce qui met le plus de malentendus dans le débat, ce qui discrédite et désinforme le plus sur les lois de 1905 et de 2004, c'est bien la manière dont c'est amené dans le débat public, puisque le plus souvent, les polémiques éclatent sur des choses qui sont complètement légales. C'est-à-dire que quand tu n'arrêtes pas de faire de la confusion et de la désinformation, comment tu peux reprocher aux personnes de mal comprendre la loi ?
Qu'est-ce qui est légal ?
Quand, par exemple, et c'est tout à fait légal, une femme porte un voile dans le conseil régional et on a un élu Rassemblement National, Julien Audol, qui lui dit.
Oui, mais là, on passe.
Non, mais là,
on va rester sur le sujet.
Est-ce que je peux terminer ?
Non, on parle sur autre chose, là. Non, on est sur l'école.
Il vient de parler de pédagogie. Est-ce que je peux juste aller au bout de mon propos ? Quand on est tout le temps en train de faire des polémiques sur des femmes qui avaient le droit de porter le voile, que ce soit au conseil régional, d'accord, que ce soit en train de tenir un bureau de vote, que ce soit dans des publicités, et il n'y a aucune loi qui demande à ce qu'on chasse les femmes de tous les lieux de représentation. Oui, il y a des filles qui ne comprennent plus la loi, parce qu'on n'arrête pas de désinformer par le traitement médiatique et par des déclarations d'élus. Et on a, par exemple, là, typiquement,
tu mets tout
ce qu'elle s'est
sac,
dit, c'est que...
En fait.
Ce qu'elle s'est dit, c'est qu'en sortant de l'école, elle avait le droit de le reporter. Et quand... On a tellement des... Le frère qui commet des violences et des menaces,
bah, mais
c'est ça le problème.
Mais par rapport aux sujets qui sont concernés par le port du voile, quand elles zappent à la télé et qu'on n'arrête pas de mettre de la confusion et de la désinformation sur ce que dit vraiment la loi, on ne veut pas 7 années après que sur la mission dont tu parlais de la pédagogie, c'est sûr il y a des désinformations, et d'autant que la loi de 2004 qui a ouvert une exception dans la loi, parce que à la base la loi de 1905, c'est que ce sont les fonctionnaires, les représentants de l'État qui doivent observer une neutralité. On a rajouter une exception du côté des usagères des services publics pour les écolières, les lycéennes. Et donc, déjà, et ça a ouvert la voie dans le débat public à des élus, comme par exemple Éric Ciotti, qui dit, maintenant, on va étendre ça aux usagères, par exemple.
Là, on est vraiment sur l'école, pour le coup, et les chiffres de Rémi, ils sont implacables. Il y a une hausse des atteintes à la laïcité, qu'elle soit de tous bords, mais il se trouve que
à l'école,
c'est particulièrement les musulmanes qui portent le voile, qui est un objet de polémique et de désinformation, même quand elles ont le droit de le porter.
Oui, mais
et
là,
donc tu ne peux pas reprocher à des gamines de ne plus comprendre la loi.
Dans le rapport des renseignements généraux, c'est vrai que la quasi-totalité des incidents sont liés au port du voile, mais aussi, c'est un nouveau phénomène, en tout cas.
La musique, également.
La musique, le refus d'aller à la piscine, et également des garçons qui portent des tenues dites traditionnelles, mais qui ont des tenues à signification religieuse.
En tout cas, là, le sujet qui nous occupe, c'est sur la question du voile.
Non,
il faut admettre
Le sujet,
je parlais de l'anecdote, l'événement dont vous avez parlé.
Oui.
Et
anecdote.
Je tiens à dire que quand tu dis qu'il faut être dans la pédagogie, à ce moment-là, il faut assainir le débat public et demander à ce que les élus ne disent pas n'importe quoi sur où et quand on a le droit de porter le voile.
C'est pas juste une anecdote, il y a une menace de mort quand même.
Oui, c'est pour ça que je me suis rectifiée, que j'ai dit pardon, un événement.
Je reviens vers vous dans un instant, Fred Hermel. Je voudrais qu'on prenne en ligne Rachid qui nous a appelé au 3216 depuis Avignon et qui est CPE en lycée professionnel. Bonjour Rachid.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Rachid, est-ce que vous avez déjà vécu justement des atteintes à la laïcité dans votre lycée ?
Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. En lycée professionnel, notamment. Voilà.
Qu'est-ce
donc,
qui s'est
on a
passé
eu ce cas-là l'année dernière. D'ailleurs, il y a eu une recrudescence, entre guillemets, en fin d'année scolaire. Mais pour moi, c'est avant tout de la provocation. Mais on a eu une élève qui, par provocation, puisque j'ai eu l'échange, on a eu un travail avec l'enseignant, les chefs d'établissement, et ainsi que les parents. Ce n'était pas une pression communautaire, et encore moins les parents. C'est l'élève qui était dans une technique de provocation envers les professeurs, envers l'institution.
Et l'élève avait mis son voile, c'est ça ?
Oui, lors d'une sortie scolaire. Et c'est important de le préciser, Fatima dit bien les choses, et je rejoins pleinement aussi Thierry Moreau. Fatima précise bien une chose, il faut qu'on revienne bien sur la circulaire du 19 mai 2004, hein, concernant la loi sur le port et signes et tenues religieux. Il faut bien expliquer, c'est la grosse problématique, c'est qu'elle s'applique à l'intérieur des établissements scolaires, généralement, mais à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en
à l'extérieur.
Oui, c'est l'école qui se délocalise.
Et c'est ça, quand on parle de pédagogie, de prévention, d'information, il y a déjà à la base un manque d'information total, expliqué auprès des parents. Et ça se fait malheureusement quand on est confronté à ce genre de situation en tant que CPE. Et on explique ça aux parents. Alors que ça devrait être clair, mentionné, suffisamment répété, de façon à ce que ce soit clair. C'est même en dehors d'un établissement, s'il y a une sortie scolaire, l'élève doit se plier à cette situation. Nous, on a eu cette chance-là et on a la chance d'avoir une chef d'établissement adjointe, une responsable qui, elle, a pris les devants, qui est allée à ce bus près de ce rassemblement d'élèves en attendant qu'ils montent dans les bus, qui a été alertée, qui s'est déplacée, qui est venue, qui a pris l'élève à part pour éviter qu'il y ait polémique, exactement comme le dit si bien Fatima. On évite de stigmatiser, comme vous le dites aussi Estelle, on évite d'estigmatiser. Elle lui a expliqué, elle a fait un rappel à l'ordre et les choses se sont déroulées de cette manière-là.
Mais ça c'est super Rachid, et ce serait bien que ça se fasse dans tous les établissements. Là on signale en fait que tous les profs de collège suivent une journée de formation à la laïcité, c'est obligatoire aujourd'hui.
Ça suffit pour que, pas, pour,
je sais que ça suffit pas, mais c'est déjà ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui justement vous Rachid en tant que CPE, vous sentez que les profs sont désarmés par rapport à ça et que finalement ils ne savent pas faire? Est-ce qu'il y a un manque de pédagogie aussi de la part des profs?
Total et plein. Total, Estelle. D'accord. Moi, j'ai eu un parcours de formateur. J'ai travaillé en milieu pénitentiaire, notamment sur la radicalisation. Donc, je sais de quoi je parle. Et là, je reviens dans l'éducation nationale. J'ai été surveillant durant mes années d'étudiant. Et donc, je vois qu'on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. On a peur d'aborder ces sujets-là, cette peur. Et on sent que, chacun se débrouille. De plus en plus, chaque prof gère sa problématique. Je ne comprends pas ça. Alors, quand on vous parle d'équipe pédagogique, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'équipe. C'est d'accord. Chacun gère. Vous ne savez, tu ne sais pas faire, débrouille-toi. Il y a de l'aide quelquefois, c'est vrai. Mais la plupart du temps, ils sont désarmés. Ils ont peur. Ils ont peur d'aborder des sujets. Moi, je suis désolé. Moi, je n'ai pas peur de parler d'un film, la désintégration. Pourquoi ce film-là n'est pas projeté, pas échangé? Pourquoi on n'échange pas? Pourquoi on ne parle pas de ces sujets-là? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas au bout des choses?
Parce qu'il n'y a plus assez d'heures de cours. On parle, tiens, regardez, à 14h de ces cours d'éducation sexuelle qui ne sont même pas donnés à l'école. Donc, en fait, il faudrait plus de cours sur la liste. Je pense que tout le monde est d'accord,
mais le problème, c'est ce que je voulais vous dire.
Ben oui, mais qui va les donner ces cours?
Des personnes qui sont compétentes. On arrive
profs,
à faire en sorte de faire intervenir des personnes qui viennent parler de tout ce qui est des informations, fake news. Travaillons sur ça. Il y a de l'argent quand même.
Absolument.
À nous de toquer auprès des préfectures, dans les politiques, dans le cadre de politique de la ville. Mais
faut mettre les moyens au bon endroit.
Mais là, on est tous d'accord, mais Rachid, voilà, il y a un manque de moyens et il faudrait qu'il y en ait plus.
Sachant qu'encore une fois, les fake news dans le débat public sont de l'autre côté. Les fake news, c'est d'essayer justement de dire que les femmes voilées doivent être
éparpillées
partout. En fait, c'est ce que dit Rachid.
J'ai dit aussi de l'autre côté. Quand le mot aussi veut dire ce qu'il veut dire.
Pas seulement.
Merci en tout cas Rachid d'avoir appelé au 3216, Rachid qui est CPE en lycée professionnel du côté du Vaucluse. Fred Hermel qui a attendu patiemment,
sagement,
mais enfin je sens qu'il boue intérieurement sur ce sujet, sur la laïcité. Je sais que c'est quand même votre cheval de bataille, Fred Hermel.
Il se trouve que moi je suis un pur produit de l'école laïque obligatoire française. Depuis la première minute à l'école maternelle jusqu'à la dernière minute à l'université, j'étais formé à l'école laïque. Et en même temps,
à l'université, on n'a pas observé une neutralité religieuse.
Mais excuse-moi, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Moi, j'ai fait tout mon parcours scolaire et universitaire à l'école publique.
Bon, d'accord.
L'université était publique. Et en même temps, je suis profondément religieux et croyant. Enfin, c'est-à-dire que j'ai une vie spirituelle, je pratique une religion, mais moi, je sépare vraiment les deux choses. Là, c'est un sujet majeur, majeur. À l'école, on forme des êtres humains, on forme des citoyens.
Exactement.
On forme des citoyens. Et donc, on apprend des règles de vie commune. Et en France, la laïcité est un pilier de la République. C'est-à-dire que si on oublie la laïcité à la française, nous vivons dans un autre pays. Vraiment.
Et alors, on fait quoi ?
eh ben on fait tout ce qu'il faut. On ne lâche rien, zéro tolérance. C'est-à-dire qu'il y a des règles, et moi je veux bien que ce soit compliqué, il faut expliquer, etc. C'est très simple, on le sait. À l'école, on ne montre pas de signes religieux ostentatoires. Okay, c'est simple.
Alors, une jeune fille qui met une voile, qui met le voile à une sortie scolaire, on fait quoi? On la vire?
Oui. On lui explique.
On lui explique. Premier avertissement, avertissement, et après on la vire.
Et donc elle se retrouve en marge derrière.
Bah oui.
Ah d'accord, ok. Et derrière, on en fait quoi de cette jeune fille?
Elle va dans une école privée, elle fait ce qu'elle veut.
Ah, oh bah voilà. En fait,
un moment, il y a des règles.
Non, mais Hermès.
Monsieur Hermès, il y a des règles. Il y a des règles à respecter en société. Il y a des règles. Moi, quand je prends la voiture, je respecte les limitations de vitesse, je ne passe pas au rouge. À l'école, il y a des règles. Alors, pour parler de ma religion, on ne va pas à l'école publique avec une grande croix. Moi, j'en ai une, elle est cachée. C'est tout. C'est simple, c'est pareil pour tout le monde. Et la laïcité, justement, elle est la garantie, à la française, elle est la garantie que chacun puisse pratiquer sa religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État en France. Il y a séparation entre les églises et l'État. C'est-à-dire, c'est très simple. Il n'y a pas d'objet ostentatoire religieux à l'école. Ça vaut pour tout le monde. Et si on n'accepte pas ces règles-là, on n'a rien à foutre à l'école de la République.
Fatima.
Là où Fred Armel a raison, c'est que nous, on avait demandé effectivement une enquête sur les conséquences de la loi de 2004, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des filles qui avaient été déscolarisées, est-ce qu'il y avait des filles qui ont été justement orientées vers des écoles coraniques, c'est-à-dire quelles ont été les conséquences. Parce que quand tu dis que c'est une loi, enfin, c'est un esprit à la française, ça reste une loi récente, c'est-à-dire qu'on a fait une évolution.
Non, mais la française, c'est la loi de 1905.
Mais la loi,
sur la neutralité religieuse des écoliers.
C'est nécessaire à cause du voile. La loi de 1905 fonctionnait
mais
très bien.
Mais en tout cas, quand tu dis que chacun peut pratiquer, j'espère que du coup, il faut savoir qu'à chaque fois, savoir qu'à chaque fois qu'il y a des polémiques médiatiques, notamment sur le voile, on voit une recrudescence des violences et des menaces, d'ailleurs de manière très très claire, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux qui accompagnent le débat, mais aussi les filles qui viennent dans nos associations nous disent dans la rue, plus d'insultes, plus de crachats, etc. Donc quand tu dis que chacun peut pratiquer sa religion,
là tu veux faire le glissement de la laïcité vers l'islamophobie et ça c'est pas une bonne chose.
Est-ce que j'ai le droit de l'exprimer? Juste quand tu dis que chacun peut pratiquer sa religion, il faut savoir qu'en France, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois, typiquement par exemple, Manuel Valls a été retoqué quand il a essayé de chasser même les femmes en voile ou en burkini ou en tunique sur la plage, il a été retoqué. Il y a par rapport aux femmes voilées, même quand elles ont le droit de le porter, une persécution particulière, une stigmatisation particulière.
Le voile, je suis désolée, la preuve,
dans cette émission même, on avait fait un débat sur même l'interdire dans la rue, dans l'espace public.
On a posé la question.
Et tu vois bien quand même
le voile intégral qui est interdit dans la rue, parce qu'en France, on doit,
on ne parlait pas du voile intégral, on parlait d'interdire le voile même dans la rue.
C'était une proposition,
Je peux penser
à chaque fois dans le débat public et pour les femmes voilées.
Je peux penser à titre personnel que pour moi le voile est un asservissement de la femme, c'est mon opinion. Bon, mais je ne demanderai pas pour autant l'interdiction du voile dans la rue. On peut avoir cette position. Il ne faut pas opérer le glissement d'une laïcité. Je termine. Je voudrais terminer, Fatima. Tu observes un glissement d'une laïcité stricte à l'école, qui doit être, encore une fois, et Fred l'a bien dit, un sanctuaire, vers une islamophobie dans la rue. C'est pas le même dossier, non, c'est pas la même chose.
Mais non, et j'insiste, en France, c'est un pays merveilleux où chacun a le droit de pratiquer sa religion. Religion n'a de plus de pouvoir qu'une autre.
Alors, je voudrais juste qu'on prenne
Mais non. Ce sont les femmes voilées qui sont les plus stigmatisées.
Tu dis que dans les faits, on ne peut pas pratiquer. Toutes les religions sont praticables, enfin, tant qu'elles ne sont pas sectaires et qu'elles n'attaquent pas la loi, c'est tout.
Alors, je voudrais qu'on prenne Ali qui nous a appelé au 3216, qui nous appelle de Chalon-sur-Saône. Bonjour Ali.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à l'équipe.
Bonjour. Et merci d'être avec nous, Ali, sur RMC. Vous vouliez réagir à ce débat. Est-ce que vous êtes inquiet pour la laïcité à l'école, vous?
Alors déjà, quand je vous écoute, vous me faites peur, tous. Oui, parce que de toute façon, en fait, quand on entend les chiffres, 600 manquements à la laïcité sur 12,5 millions d'élèves, je pense qu'en fait, on est vraiment sur un épiphénomène.
Ah bah oui, mais il faut en parler. C'est important, Ali. C'est les fondements de notre société.
Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas en parler, mais par contre, 600... En fait, est-ce qu'il y a que ça comme problème dans les établissements scolaires? Je ne pense pas.
Mais c'est en forte hausse.
Oui, ouais, 600. Ça fait 600.
Non, 600 signalement, c'est-à-dire qu'il y en a des milliers qui ne sont pas dits, hein.
Oui, sauf que, est-ce que tout le monde respecte le code de la route? Est-ce qu'il n'y a pas de féminicide? Est-ce qu'il n'y a pas...
Mais on en parle aussi, Ali.
Oui, non,
mais on va pas mettre ça sous le tapis parce que c'est 600 sur 12 millions.
Il ne faut pas minorer le problème.
Mais
il faut même s'attaquer au début, justement, quand il n'y en a pas beaucoup.
600, 600.
Mais justement,
mais 600, c'est 600 de trop. Non, mais excusez-moi, Ali.
Moi, en fait, écoute, moi, ce qui me pose problème, vous savez, c'est quoi?
Non, allez-y.
C'est que vous êtes en train de parler de ça, mais vous n'êtes pas en train de parler de la prof qui s'est fait menacer de mort.
Mais si, bien moi, sûr qu'on en parle.
C'est la raison pour laquelle on parle de là.
Attendez. Tout à l'heure, je vous écoute. Moi, ce qui me choque, c'est qu'une prof se fasse menacer de mort. Ça, par contre, c'est extrêmement grave. Par contre, me parler des 600 épiphénomènes, des atteintes à la laïcité dans les établissements concernant des adolescents, adolescentes qui sont borderline, qui jouent avec l'autorité, soit on ne comprend pas l'enfant, et là, en fait, on peut faire des tonnes là-dessus, soit on connaît la psychologie de l'enfant et on se dit, OK.
Sauf que l'un entraîne l'autre. Excusez-moi, Ali, l'un entraîne l'autre.
Il a raison de revenir sur les menaces de mort, c'est vrai.
Oui. La semaine dernière, on a parlé d'une jeune fille qui avait le ventre à l'air et qui était à moitié nue quand elle arrivait à l'école. Si vous voulez, aujourd'hui, ces enfants-là, il faut pas leur donner des opinions et des pensées d'adultes. Et
nous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler, en fait. Pour vous, c'est un caprice d'ado, quoi.
Pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de regarder ces enfants-là avec un prisme d'adulte. C'est tout. Vous pouvez en parler. Vous avez le droit d'en parler. Et c'est bien d'en parler. Mais le prisme dans lequel vous êtes en train d'analyser les choses est biaisé par le fait que nous sommes des adultes et nous avons une conception des choses.
Non, nous sommes des adultes, nous avons une responsabilité par rapport à ces enfants.
Alors ça,
justement, oui, c'est un regard d'adulte qui connaît l'importance de la laïcité dans notre pays. Oui, j'assume le fait que j'ai un regard d'adulte et que le ministre et que les profs doivent avoir des regards d'adulte sur la mission qu'il a l'heure de former les citoyens. Les
enfants. Attends, laissez parler Ali.
Fred, je te tutoie parce qu'en fait, on aime la même équipe et j'adore quand tu
le Racing Club de Lens.
Réel, c'est pour ça que j'ai
dit
que tu interviens, pas de souci. Mais Fred, tu as raison. Et ça, c'est l'éducation. Or, en fin de compte, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut plutôt aller dans le côté pédagogique et éducatif.
C'est ce qui est fait, mais ça suffit pas, Ali.
Excusez-moi, juste je termine. On va dans le côté éducatif et pédagogique pour concernant cette jeune fille. Par contre, la prof qui s'est fait menacer de mort, là, il faut envoyer un signal très, 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 très fort parce que c'est inadmissible.
Mais ça a été fait. Il a été appréhendé par la police, le frère de la jeune fille.
Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'appréhendé par la police. Ok, d'accord. Mais je voudrais bien voir la suite, parce que vous savez quoi, Samuel Paty, ça fait écho tous les jours chez nous.
Je sais. Oui, mais donc, vous avez raison de le rappeler.
C'est juste ça. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'on mélange les choses. Un, la menace de mort qui est de la prof, qui est pour moi.
Oui, mais elle est menacée de mort. Pourquoi la prof?
Oui,
elle est menacée de mort.
L'un découle
parce que
de l'autre.
A refusé parce qu'elle a demandé à une jeune fille d'enlever son voile en sortie scolaire. S'il n'y avait pas eu ça, elle aurait pas été menacée de mort. Donc en fait, c'est quand même lié quelque part.
Je commençais mon intervention en disant ce sont deux choses différentes. Je ne pense pas qu'il y ait des menaces de mort.
L'un découle de l'autre.
Non, mais encore heureux. Mais là, c'est un événement extrêmement violent. Mais la genèse de cet événement.
Parce qu'on parle de désobéissance. Effectivement, on a déjà eu ce débat et je pense vraiment qu'il faut bien comprendre que les provocations qui sont faites par des personnes mineures, etc., c'est quelque chose qui découle, de la construction
pour provoquer.
Effectivement, dans une société où on parle tout le temps de la laïcité à travers la question du voile, quand les jeunes disent je vais provoquer, ils vont provoquer pour ça, évidemment par rapport à ce biais.
Oui, mais c'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on provoquait pas comme ça.
Parce que je pense qu'on en parlait beaucoup moins et beaucoup moins dans cette ère. Parce que je suis désolée.
C'est tout. Il y avait beaucoup moins d'atteintes à la laïcité.
Les atteintes à la laïcité ont commencé par le débat public. Parce que quand tu disais tout à l'heure, aujourd'hui en France, tout le monde peut pratiquer sa religion comme il le souhaite, je suis désolée. Moi, j'ai cité trois cas. J'ai cité trois femmes qui étaient légales et ça a fait polémique. Est-ce que tu peux me citer l'équivalent croix?
Non, mais là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Mais de toute façon, merci à Ali, en tout cas, de nous avoir appelé au 3216. Et puis, on a fait un sondage sur le compte Twitter des Estelle Midi, on va pouvoir vous départager. Fred et Fatima, faut-il s'inquiéter pour la laïcité aujourd'hui en France?
Mais c'est un oui massif pour 92% de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux.
Dans un instant, on parlera de la pénurie du jour, c'est celle des conducteurs des transports en commun. Rien ne va plus partout en France. Est-ce que c'est une galère aujourd'hui pour vous de prendre les transports en commun? Dites-nous tout au 3216. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est dans retour sur le plateau d'Estelle Midi avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Fatima Benomar et Fred Hermel. Vous êtes bien sûr, vous nous suivez à la radio ou à la télé sur RMC Story, canal 23. Et le débat continue dans Estelle Midi avec tout de suite la pénurie du jour. C'est celle des conducteurs de transport en commun. Bus, tram, car scolaire, métro, il manque des milliers de chauffeurs partout en France. Et se déplacer est désormais synonyme de galère pour de très nombreux usagers, Rémi.
Oui, tu l'as dit, en cause donc ce manque persistant de conducteurs. Tous les opérateurs reconnaissent des difficultés de recrutement. Exemple, chez Keolis, qui exploite une centaine de réseaux de bus à travers toute la France, plus d'un millier de postes de chauffeurs sont à pourvoir. Il manque plus de 650 chauffeurs chez Transdev. Toutes les grandes villes de France sont concernées, la région parisienne, mais aussi la Bretagne, les Pays de la Loire, les réseaux de Lyon, Bordeaux, Lille, Rennes. Et face à cette pénurie, bien, le secteur ne parvient pas à trouver de solution, même pas au travers d'intérimaires. La RATP, la grande régie parisienne, qui a pourtant lancé de vastes campagnes de recrutement, cherche toujours 800 conducteurs de bus. Et conséquence, bien, les fréquences sur certaines lignes ont dû être réduites à la RATP, en région parisienne. Et il n'y a pas que les bus depuis la rentrée. La SNCF doit ainsi supprimer 19 trains du quotidien sur la ligne C du RER, car il lui manque une cinquantaine de conducteurs.
Ouais, et c'est vrai que c'est la galère. J'en ai fait l'expérience hier soir, 2 fois 8 minutes d'attente pour un métro, alors que normalement c'est toutes les 2 minutes. Et puis alors Uber et taxi, je pense que le métier, les gens ont déserté également ce métier, il n'y a plus rien. Thierry Moreau, est-ce que c'est un enfer aujourd'hui de prendre les transports en commun?
Je pense que la façon dont est formulée la question, c'est-à-dire que le fait que les usagers soient maltraités n'est que la conséquence en fait de l'état des transports en commun en France, qui en fait est un problème grave, et on était déjà à l'eau. C'est le fait qu'il manque des conducteurs, ça rajoute. C'est quoi la conséquence aujourd'hui? C'est la fin des petites lignes. Le manque d'entretien de certaines lignes qui fait qu'on a moins de trains. Moi, j'habite à Mantes-la-Jolie. Je peux vous dire que la ligne de Mantes-la-Jolie pour venir à Paris, c'est une galère parce qu'il y a toujours des travaux, toujours du manque d'entretien, etc. Il y a donc le manque de conducteurs et d'employés, manque de volonté politique de vraiment investir dans ce domaine-là, très clairement. La seule solution en ce qui concerne les conducteurs, c'est un investissement massif dans tous les secteurs. Mais ça veut dire quoi? Il y avait ce matin, chez Apolline Matin, un spécialiste qui expliquait qu'il faut 4 mois pour former un chauffeur de bus. Il faut lancer une campagne massive de recrutement. Mais attention.
Mais via Pôle emploi également.
Oui, sauf qu'il faut revaloriser les salaires et revaloriser les carrières. Parce que quand vous êtes chauffeur de bus et qu'après 10 ans d'ancienneté, vous gagnez à peu près ce que vous gagnez quand vous rentrez, ça ne va pas. Il faut aussi réfléchir. Et j'écoutais aussi Laurent Berger chez Apolline. J'écoute vraiment.
Vous avez bien fait votre boulot.
Oui, j'ai bien fait mon boulot. Chez Apolline, qui expliquait qu'il faut réfléchir au temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, on propose à ces conducteurs des emplois du temps hachés. Ils travaillent le matin, ils travaillent l'après-midi. Il faut réfléchir au temps de travail de ces gens-là pour améliorer l'attractivité de ces professions. Ça passera par un investissement massif et une refonte. Faut qu'on pense différemment la façon de travailler avec ces conducteurs.
Mais c'est vrai, Fatima, que alors je sais que vous prenez beaucoup les transports en commun, mais on nous pousse à prendre les transports en commun. On nous dit c'est l'écologie, c'est la planète, faut les prendre. Et c'est une galère. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui vont délaisser les transports en commun pour la voiture. Donc on marche sur l'eau, en fait. On marche sur la tête, je veux dire.
Oui, pour moi, ça fait partie de la planification écologique. Chaque fois que j'ai parlé d'écologie sur ce plateau, je parlais de la fermeture des petites lignes du réseau ferroviaire qui s'est effondré ces 40 dernières années. Et bon, tu as déjà parlé effectivement de l'attractivité, c'est-à-dire qu'on a beau lancer des campagnes de recrutement, si effectivement ce sont des métiers où les horaires sont impossibles, et où les projections de carrière ne sont pas attractives, c'est sûr qu'on les aura pas, alors que c'est quand même un droit de l'usager. C'est fait partie de ce qu'on paye dans nos impôts. Je parle même pas des promesses des campagnes. Moi, je vis en Île-de-France, et en 2015, quand Pécresse s'était présentée, elle s'était engagée à ne pas hausser le prix du Navigo. Donc, pour les personnes qui n'habitent pas en Île-de-France, qui nous écoutent, le Navigo, c'est qu'on paye 75 euros par mois. On ne peut pas payer en deçà pour restreindre autour de notre secteur de vie. Donc, on peut se balader en Île-de-France pour 75 euros. Et donc, beaucoup de personnes pensent qu'elles n'en ont pas pour leur argent, surtout quand il n'y a pas assez de bus autour d'elles, et surtout dans les quartiers populaires. Moi, j'habite à Montreuil, et dans le Haut Montreuil, c'est-à-dire là où il y a le plus de quartiers populaires, notamment au secteur Boissière, là, il y a quelques semaines, on était à 30 minutes jusqu'à une heure d'attente. Là, c'est 60 à 90 minutes d'attente, avec aucune autre alternative en termes de transport. Donc, quand tu es une personne âgée, quand tu es une personne avec des enfants, quand tu es une personne en situation de handicap, laisse tomber l'enclavement. Et je pense aussi aux enfants et aux adolescents qui ne peuvent pas aller faire, par exemple, leurs activités extrascolaires en allant vers le centre de Montreuil. Enfin, ils n'ont plus cette possibilité. Et les personnes qui arrivent en retard au boulot, etc. Et même en plus, quand le bus arrive finalement au bout d'une heure, bah, tu peux plus monter en
mais
fait.
Là, parce qu'il est bondé. Parce que il t'attend encore une heure.
Donc, parce qu'il est bondé. Donc, oui, quand on parle de maltraitance, en tout cas, les gens, je comprends qu'ils soient en colère et qu'ils se disent que pour ce qu'ils payent quand même par mois, ils ne peuvent même pas faire les déplacements.
Je précise, ça ne couvre pas toute l'île de France. Hein, parce
oui, c'est pour ça que j'ai bien parlé. Et je pense vraiment que, c'est, que quand on rationne, c'est plutôt dans les quartiers populaires en fait, qu'on va baisser les lignes.
Rémi.
Juste pour être juste, le pass Navigo, le prix du pass Navigo est bloqué depuis plusieurs années en Île-de-France.
Oui, mais en 2015, il avait été augmenté alors que c'était à ces régionales-là. Elle s'était engagée à ne pas l'augmenter.
Fred Hermel, est-ce que l'État doit mettre le paquet là-dessus sur les transports en commun?
Alors, l'État le met déjà. On va dire une chose. Non, mais c'est très bien. Moi, je vais m'expliquer. Fatima a dit que les gens en veulent pour leur argent. Oui, mais déjà, les gens ne payent pas le prix réel du transport.
Ah oui, bah,
oui, non, mais il faut quand même expliquer aux gens que. C'est-à-dire que si on payait le prix du ticket de métro au prix réel, ce serait beaucoup plus cher que ce que c'est.
Et on ne paye pas tous la même chose quand on est jeune retraité.
Je termine, s'il te plaît, je te laisse parler. Donc l'État met beaucoup d'argent déjà, mais beaucoup d'argent, c'est énorme. Et la France est un pays où on subventionne, l'un des pays où on subventionne le plus les transports en commun. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Après, je voudrais simplement revenir sur la question du recrutement des chauffeurs de bus. Mais ils ont peur, parce que dans plein de quartiers, ils sont caillassés, leur vie est en danger, parce qu'ils gagnent une misère alors qu'ils sont responsables de la vie de gens. Aujourd'hui, on a malheureusement le procès de l'accident de bus scolaire qui a tué...
Le bus à Mias, oui.
Voilà, à Mias, avec plusieurs décès d'enfants. Être chauffeur de bus aujourd'hui, c'est avoir une sacrée responsabilité. C'est avoir la vie de gens entre ses mains, au volant, mais aussi sa propre vie, parce qu'on a des exemples tous les jours.
C'est vrai qu'il y a une énorme hausse des violences dans les transports.
Des violences dans les transports.
Oui, des violences de circulation aussi. Hein.
Comment
aussi ça. Il y a aussi les difficultés de circulation.
J'en venais à ça. Et là, bien sûr, je pense que nos cerveaux sont plus ou moins faits de la même manière. Après, quand dans des villes, on attaque la voiture, on crée des embouteillages monstres, par exemple à Paris, bah, automatiquement, les bus, c'est plus difficile de circuler. Donc aujourd'hui...
Ils ont des voies réservées, hein. Pardon.
Oui, mais enfin, mais t'as vu tous les travaux qu'il y a à Paris, etc. Les voies réservées
sont bloquées quand même.
Moi, la première chose qu'on m'a dit quand je me suis installé à Paris il y a un an, c'est mon filleul qui me l'a dit. Il me dit, bon, je dis, ah tiens, je pourrais prendre le bus. Et non, prends pas le bus. Prends le métro. Parce que le bus, ne sais jamais quand tu pars et tu ne sais jamais quand tu arrives.
Oui, donc c'est évidemment embêtant quand on doit être à l'heure à un rendez-vous. Vous parliez de Montreuil il y a un instant, Fatima. Bah justement, on a Capucine qui nous appelle de Montreuil. Elle est membre d'un collectif d'habitants de la Boissière, par rapport à cette galère des transports en commun. Bonjour Capucine.
Bonjour Esther.
Alors, bonjour. Expliquez-nous, vous, à quel point c'est l'enfer de prendre les transports en commun aujourd'hui à Montreuil.
En fait, c'en est au point qu'on estime qu'il y a une assignation à résidence sur le quartier populaire dans lequel j'habite, puisqu'on est, on va être sur des attentes, des intervalles entre les bus de 20 à 90 minutes.
90
en région
minutes.
Parisienne, dans des zones très peuplées comme les nôtres, c'est comme s'il n'y avait pas de bus. Parce qu'en fait, si on est sur une attente de plus de 5 à 10 minutes, le quartier est tellement peuplé qu'en fait, quand le bus arrive, il est déjà rempli.
C'est ça. C'est lié à quoi?
C'est lié à quoi? Alors, la RATP estime que c'est lié à une difficulté de recrutement de chauffeurs. Voilà. Simplement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que quand il y a effectivement des manques de chauffeurs, bah, les fréquences sont ralenties dans les quartiers populaires. En fait, ce sont toujours les mêmes quartiers qui sont ciblés par ces désertions. Et aussi avec des punitions collectives, quand il y a des incidents isolés, on décide de détourner les lignes. C'est ce qui s'est produit aussi à la Boissière pendant 2 mois cet été, où août, septembre, des lignes ont été détournées.
Bah oui, mais Cassine, vous voulez faire quoi? Si jamais les chauffeurs ne sont pas en sécurité, on ne va pas mettre leur vie en danger pour transporter des gens, ce n'est pas possible.
On n'est pas encore à South Central à Montreuil pour l'instant. Oui, c'est pas le Far West, j'entends. Oui.
Voilà. Ah, encore heureux.
Et en fait, on est en train. Non, mais parce que j'entendais que vous parliez justement de cette question des violences. Et c'est sûr que on est depuis quelques années avec un gouvernement qui fout une pression sociale monstrueuse à la fois sur sa population, sur ses fonctionnaires et sur tous les travailleurs pauvres. Et donc effectivement, les gens qui sont dans la rue aux heures de pointe sont tous énervés, que ce soit les chauffeurs, les gens dehors qui peuvent pas prendre le bus.
Les violences sont
Dans un cas d'un autre transport.
Non, mais après, c'est un cercle vicieux.
Transport,
bah, c'est sûr qu'il y a plus d'incivilité quand tu as attendu de une heure
le raccourci qui fait que la pression sociale fait que les gens sont énervés et donc il y a des violences contre les chauffeurs de bus me paraît être un raccourci un peu fallacieux.
Je suis d'accord, mais tu vois bien dans les. Attendez, deux secondes. Tu vois bien aussi dans les aéroports. Tu vois bien quand un avion a 2 heures de retard, tu vois bien les gens, et ça peut être des gens extrêmement friqués.
Oui, mais c'est pas la pression sociale du gouvernement qui est responsable de ça.
C'est n'importe quoi. Ça
Je suis désolée, là où je suis d'accord, c'est très rapidement les réformes qui sont faites. C'est sûr que quand tu dois encore plus être plus tôt, par exemple, à ton boulot et que tu as un temps de transport qui est énorme, par exemple le dimanche, les transports sont ralentis, tu le sais.
Ça, c'est vrai.
Et quand tu fais une extension du travail du dimanche, sachant que ceux qui travaillent le plus le dimanche, ce sont les caissières, les vendeuses, etc., c'est-à-dire les gens qui habitent dans les quartiers populaires et qu'elles doivent se lever encore plus tôt pour arriver à leur boulot le dimanche, je peux t'assurer qu'il y a des liens structurels entre les réformes qui sont faites.
C'est pas ces femmes-là qui sont violentes, celles dont tu parles là.
Quand il y a des gros chauffeurs, c'est pas à cause des femmes.
Exactement.
Alors, juste, Capucine, vous avez mis en ligne une pétition, je crois.
Oui, tout à fait. Il y a une pétition qui est en ligne. Je vous invite juste à taper Boissière et Montreuil parce que je connais même pas le lien de tête, mais voilà. Après, j'invite les gens, surtout dans tous les quartiers, à se mobiliser. Parce qu'en fait, c'est dans tous les quartiers populaires.
Ouais, alors après, pas que dans les quartiers populaires, je suis désolée, même dans certains arrondissements très chics de Paris, les métros circulent moins, les bus circulent moins.
C'est-à-dire que quand on habite dans un quartier très chic de Paris, on peut supposer que l'impact sur sa vie ne va pas être le même, puisque d'abord, on a à proximité de soi absolument tout, et qu'on va avoir aussi le métro, et peut-être le moyen de prendre un VTC.
Ouais, mais le métro, il y en a de moins en moins aussi. Donc, à part sur les lignes automatisées, évidemment, mais les métros,
imaginez le haut Montreuil, c'est-à-dire que pour arriver, ne serait-ce que pour des activités extrascolaires ou pour des commerces, etc., il faut aller vers le centre de Montreuil. Donc, c'est vraiment pas la même chose.
Ce que connaissent beaucoup de Français aussi qui vivent à la campagne.
Exactement, mais pas qu'à Paris. On va terminer. Merci beaucoup, Capucine, très rapidement avec Bruno, justement, qui est conducteur de bus RATP depuis 22 ans et qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Bruno.
Salut à toute l'équipe.
Bonjour.
Ça va Bruno? Bon bah Bruno, vous faites partie des derniers Mohicans en fait finalement. Quoi. Vous êtes l'un des derniers conducteurs de bus en France.
Ouais. C'est très difficile pour la RATP de recruter, mais bon, avec les conditions de travail qui ont changé drastiquement, moi je vais vous donner un exemple bien concret. Samedi, je commence à 7h du matin et je finis à 15h. Alors moi, je mange quand? À quel moment je mange? Donc, et à un moment donné, le métier maintenant, il est moins attrayant. Pourquoi? Parce que les conditions se sont durcies. Et comme je vous l'ai dit, là, nous, aujourd'hui, par moment, on mange sur le pouce. On arrive aux arrêts, les arrêts sont bondés. Et je rejoins l'audit, la fille que vous aviez tout à l'heure.
Capucine.
Les bus sont blindés. Il y a des gens qui attendaient le bus déjà depuis 20-30 minutes. Oui. Se voient refuser l'accès au bus.
Donc, ils s'énervent.
Et tout ça, c'est dû. Et moi, je vous parle, moi, j'ai 22 ans de régie. À l'époque, je peux vous dire que la RATP, au recrutement, c'était vraiment au cure-dent. Vraiment, on avait l'impression, avec tous les tests qu'on passait pour entrer dans cette boîte. Et aujourd'hui, ils ont du mal à recruter.
Donc c'est n'importe qui.
Parce que,
en fin de compte,
moi, je suis rentré à la régie, c'était pas pour le salaire, c'était les conditions de travail qui
étaient attrayantes pour vous.
Voilà, qui étaient attrayantes. Mais aujourd'hui, tout a changé et les collègues en souffrent. Et donc, forcément, ça se voit de l'extérieur et le métier est de moins en moins attrayant et c'est très, très, très difficile, que ce soit pour nous, conducteurs, que pour les gens qui subissent tout ça.
Mais tout à fait.
La RATP ne fait plus rêver, en fait. Ça ne fait plus rêver.
Et oui, et tout comme la SNCF, d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus les mêmes conditions de retraite, etc. Mais c'est bien de le dire également et de penser aux conducteurs, parce qu'effectivement, ils ont aussi un boulot difficile. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même l'enfer de circuler aujourd'hui partout en France, parce qu'on parle des grandes villes, mais c'est encore pire, je pense, à la campagne. On vous a posé la question, en tout cas, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que c'est devenu un enfer de prendre les transports en commun, Rémi?
Est-ce que vous en doutez encore? En tout cas, ceux qui ont voté sur les réseaux sociaux n'en doutent pas. C'est oui à 91%.
Allez, dans un instant, Anthony Morel, mais on espère qu'il sera à l'heure, qui va nous parler des nouvelles technologies au service des malades d'Alzheimer. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 51, vous êtes sur RMC, RMC Story. C'est le moment d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et les nouvelles technologies ont un rôle énorme à jouer, que ce soit pour dépister la maladie le plus rapidement possible ou pour accompagner les patients.
Oui, alors on va commencer par le dépistage. Gros enjeu, puisqu'il y a la moitié des malades d'Alzheimer qui ne savent pas qu'ils sont malades.
Je veux dire, bon, c'est peut-être alors, Anthony, le micro ne fonctionne pas. Mais regardez, je vais me rapprocher de vous et je vais vous prêter mon micro.
Alors voilà. Donc je disais, c'est un énorme enjeu parce qu'il y a la moitié des malades d'Alzheimer aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils sont malades. Alors parfois, on peut se dire, oui, bah, j'aime mieux pas savoir, mais enfin quand même, si on prend la maladie le plus tôt possible, c'est mieux pour en retarder l'évolution. D'où l'intérêt de développer des outils, et notamment en utilisant de l'intelligence artificielle, qui vont permettre, eh bien, de dépister de manière très précoce la maladie. Par exemple, un outil sur lequel travaillent des chercheurs de l'université de Boston, qui va permettre à partir d'enregistrement de notre voix, eh bien, de déterminer, voilà, ça va mieux fonctionner avec ça, donc d'enregistrement de notre voix, de déterminer, eh bien, si on est malade ou pas. En général, quand vous allez vous faire dépister, on va vous poser des questions, vous allez répondre.
Si vous allez vous faire dépister, c'est quand même qu'il y a un problème.
Alors, justement, le truc, c'est que tout l'intérêt, c'est que vous auriez même plus besoin d'aller chez le médecin. C'est-à-dire, via une application sur le téléphone ou sur son ordinateur, en parlant à une appli, on pourrait avoir, alors, je sais que pour les hypochondriaques,
ça va angoisser Estelle, ce que vous dites là.
C'est sympa, vous êtes dans
votre salon, y aller toutes les deux minutes.
Mais maman va faire un test.
Ben oui, c'est rigolo, mais très sérieusement, enfin, ça peut être absolument fondamental. C'est-à-dire, si ça peut vous permettre de prendre la maladie beaucoup plus précocement, c'est quand même très intéressant. Et en plus, c'est des technologies qui, pour le coup, coûteraient pas très cher à mettre en place par rapport à des campagnes de dépistage plus traditionnelles. Ça remplacerait pas les médecins humains, évidemment. Ensuite, ça vous dirait, il faut aller voir le médecin, etc. Et ensuite, il y aura un processus qui suivrait. Un autre outil qui va analyser carrément notre visage et qui va être capable de détecter par les expressions de notre visage des signes avant-coureurs de la maladie. Ça, c'est des chercheurs de l'université de Tokyo qui travaillent là-dessus. Vous imaginez juste en analysant, là encore, caméra du téléphone, on va pouvoir vous dire s'il y a un problème ou pas. C'est quand même des outils. Alors, je suis d'accord, pour les hypochondriaques, c'est pas extraordinaire.
Le téléphone n'a pas intérêt à se tromper.
Oui, alors,
excusez-moi, mais.
Non, mais après, évidemment, encore une fois, ça vous dit d'aller voir le médecin et ensuite on peut affiner le diagnostic.
Au numéro.
Non, mais déjà, de devoir aller chez le médecin, ça fait peur.
Non, mais c'est vrai. Donc, voilà, bien sûr. Non, mais moi aussi, je comprends, je suis un peu hypochondriaque aussi, mais pas à ce niveau-là quand même.
En tout cas, malheureusement, c'est une maladie qui ne se soigne pas pour le moment, mais. Il y a quand même des progrès et des ambitions.
Alors, notamment grâce au potentiel incroyable des implants neuronaux, c'est-à-dire des puces électroniques qu'on va implanter directement dans le cerveau. Ça fait la taille d'un grain de riz et qui vont aller cibler en envoyant des petites décharges électriques très ciblées qui vont réactiver des neurotransmetteurs qui ont été abîmés ou détruits par la maladie. Et ça, concrètement, ça pourrait permettre de limiter les pertes de mémoire pour les malades d'Alzheimer et de limiter les tremblements pour les malades de Parkinson. Donc toutes les maladies neurodégénératives. Alors attention, il ne s'agit pas de donner des faux espoirs aux gens. Là, ce sont des technologies qui sont en cours de développement dans les laboratoires. Ça va prendre des années à se développer, mais c'est une promesse quand même et un espoir absolument incroyable si on pouvait mettre au point ces petites puces électroniques. Il y a plusieurs projets, notamment un projet français d'ailleurs sur ce sujet.
Ah bah écoutez, super, mais en attendant que ce soit au point, il faut faire au mieux bien sûr pour accompagner les patients au quotidien, et là les robots peuvent aider.
Alors oui, et notamment des robots peluches. Alors c'est incroyable, c'est des peluches thérapeutiques, on les appelle comme ça. Paro par exemple, qui est un robot phoque, mais qui est extraordinaire. Ça ressemble à une peluche pour enfants, sauf qu'en fait c'est un petit bijou de technologie. À l'intérieur vous avez des petits capteurs électroniques et il va se comporter en fait comme un animal de compagnie avec le patient. Donc il va réagir au toucher, à la chaleur, et en fait ça va limiter le niveau d'angoisse, de stress, d'irritation du patient. Ça va lui permettre de trouver un peu de sérénité et ça permet d'avoir un accompagnement, notamment pour les patients d'Alzheimer.
C'est trop chou.
Ce sont des outils qui sont utilisés notamment aujourd'hui, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et ça permet vraiment d'avoir un accompagnement un peu plus intéressant.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Anthony, vous êtes jeune, mais est-ce que vous avez déjà pensé à votre retraite?
Ouais. C'est gentil de dire que je suis jeune, je le suis plus tant que ça. Oui, j'y pense assez régulièrement.
Vous voulez la prendre à quel âge?
Ah là là, le plus tôt possible.
Ah bah écoutez, vous êtes comme 3 Français sur 4 qui estiment quand même que l'âge idéal de départ à la retraite, c'est 62 ans. Emmanuel Macron doit-il écouter les Français, lui, qui vise plutôt 65? C'est la question qu'on vous posera dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.